Bonjour et bienvenue dans Du vent sous la robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et dans cet épisode, j'accueille Tiffany Dumas. Tiffany, c'est l'histoire d'une ancienne juriste qui est devenue avocate par passion pour sa matière, sans passer par la case collab, mais c'est aussi celle de comment elle s'est inspirée du monde des startups, et notamment de la méthode du pitch et du legal design, pour rendre ses plaidoiries plus impactantes. Mais c'est surtout le parcours qui l'a menée à passer d'une situation où elle croulait sous les mails et les demandes et avait du mal à tout gérer, à une situation où elle a gagné un temps fou et renforcé sa relation client en créant une plateforme collaborative à destination de ses clients comportant de multiples fonctionnalités. Bref, vous l'aurez compris, en cette période de rentrée, cet épisode est une mine d'or d'idées et d'inspiration. Alors, tous à vos écouteurs. Bonjour Tiffany.
Bonjour Laetitia.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très heureuse de te recevoir dans ce podcast.
Merci, moi aussi. Merci pour l'invitation.
Donc Tiffany, tu es avocate en droit de la protection des données et des nouvelles technologies à Toulon. Dans le cadre du développement d'une legal tech de gestion des cookies, en 2014, tu as eu l'occasion d'être intégrée à un incubateur et tu as ainsi découvert l'univers et les codes des startups, et notamment le pitch. Séduite par cet exercice, tu t'es dit, pourquoi pas l'appliquer à mes plaidoiries, et donc aussitôt dit, aussitôt fait, tu t'es alors lancée dans l'aventure auprès de quelques juridictions. Tu partageras avec nous ton retour d'expérience sur cette nouvelle façon de plaider et de penser tes conclusions, mais ce n'est pas tout, puisque tu as aussi mis en place une plateforme collaborative pour tes clients qui intègre une multitude d'outils et de fonctionnalités destinées à faciliter et à améliorer la relation client-avocat. Bref, tu souffles un vent de mistral sous la robe. Tiffany, est-ce que tu peux nous parler un peu, pour commencer, de ton parcours et de ce qui t'a conduite à t'intéresser au droit et aussi à l'innovation dans le domaine du droit?
Alors, ma passion pour le droit, j'ai un peu du mal à l'expliquer, parce que j'ai voulu devenir juriste, surtout, juriste d'affaires. Je sais pas, j'ai toujours été attirée par le commerce, les contrats. Je sais pas l'expliquer, mais depuis toute petite, à peu près depuis l'âge de 8 ans, je me souviens, c'était une amie...
Ah oui, c'est tôt.
Une amie d'enfance, sa sœur, avait beaucoup de différences d'âge, qui voulait devenir juriste franco-allemande, parce que j'ai un parcours très international. Et je me suis dit, oh, ça a l'air chouette, moi aussi.
Et ça m'a pas quittée.
J'ai vécu longtemps en Allemagne et j'ai été éduquée dans une éducation franco-allemande avec un bac français et un bac allemand. Et à la sortie d'études, je voulais continuer cette voie franco-allemande et j'ai débuté mes études à Assas. Et Assas, ils proposaient un programme franco-allemand très orienté affaires. Et quand j'ai débuté, il fallait un peu grandir, enfin rester au droit des affaires, commencer à spécialiser un peu dans les études. Et moi, j'étais très attirée par la propriété intellectuelle, avec le milieu artistique, je sais pas quoi. Je me disais, oh, ça doit être chouette. Et j'ai découvert dans la fin de mes études, donc en Allemagne, où j'ai fait un LLM en droit international européen économique, couplé avec le Master 2 de droit européen des affaires d'Assas, très orienté droit de la concurrence. Cette fusion de propriété intellectuelle, parce qu'à l'époque, on parlait pas vraiment, c'était le début de l'Internet, on est dans les années 2007, 2007-2009, c'est vraiment le début de l'explosion des smartphones, donc la propriété intellectuelle était un peu le premier pas dans
vers les nouvelles technologies.
Le droit de la concurrence commençait à s'imprégner un peu aussi des nouvelles technologies. Et derrière, donc en Allemagne, donc, j'ai étudié la propriété intellectuelle à l'époque. On a intégré aussi beaucoup de droits des médias, droits de la communication, qui pour eux était aussi le début des droits de la protection des données personnelles. Et Munich, ville qui a l'Office européen des brevets, donc gros travail sur tout ce qui est droit des marques et droit des brevets. C'est comme ça que j'ai été formée et j'ai découvert les nouvelles technologies et la propriété intellectuelle.
Donc après, t'as commencé par être juriste?
Oui, alors comme je disais, j'étais fascinée et obnubilée par le franco-allemand et l'international, même si par ailleurs la propriété intellectuelle était un domaine qui m'intéressait. Donc j'ai eu l'opportunité, c'est comme ça que je suis arrivée à Toulon, de travailler dans une compagnie d'assurance en tant que juriste international d'assurance, plutôt le côté conformité, compliance, où j'étais en charge de gérer la conformité des structures qui étaient en train de s'établir ou qui étaient établies en Allemagne, en Belgique et en Espagne, parce que l'espagnol est aussi des langues familiales, enfin maternelles. Donc c'était vraiment pour moi quelque chose de très passionnant, de très formateur, parce que c'est très réglementé et organisé, c'est très structuré comme pratique, le juriste en conformité. Et il y avait déjà à ce niveau-là un vrai travail de vulgarisation du droit. J'insiste parce que ça m'a beaucoup, beaucoup ensuite inspirée quand je suis devenue avocat.
Et alors justement, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, ton rêve d'enfant de devenir juriste en droit des affaires, en tout cas là, en droit des assurances, ben tu t'es dit, bah non, en fait, maintenant j'ai envie de devenir avocate.
Alors c'est un peu le hasard. Il y a eu un putsch au sein de la compagnie d'assurance dans laquelle j'étais, le nouveau la nouvelle gouvernance ne croyait plus du tout à l'international et a fermé la branche internationale.
Ah oui, okay.
Ils sont redevenus franco-français.
Et ça, donc, c'est un changement quand même assez radical.
Ah oui, c'est pour ça que je parle d'un putsch, parce qu'il y a eu plein de conséquences humain et de changement complet au niveau de cette compagnie d'assurance. Et bah, du coup, comme j'étais à l'international, je faisais partie de ceux qui devaient quitter cette structure. Donc au début, j'avais réfléchi à peut-être partir ailleurs. Mais bon, j'avais la chance de vivre à Toulon. J'avais déjà une vie de famille à Toulon établie, donc j'avais pas envie de tout quitter. Et du coup, à Toulon, le paysage économique n'est pas le paysage parisien, on va dire.
Et si je voulais...
Voilà. Et moi, j'étais un peu butée sur je veux continuer à faire le droit des affaires, je veux continuer à faire du droit international, je veux continuer à faire ce qui me plaît. J'étais déjà la propriété intellectuelle à l'occasion des assurances, j'avais déjà travaillé sur la protection des données, et donc j'avais pas envie de changer de matière, ouais. De
renoncer.
Mais
t'avais pas non plus envie de partir de Toulon, donc il fallait trouver un moyen de concilier les deux.
Voilà, et l'option, c'était de reprendre mes études et de passer le barreau. Et c'est ce que j'ai fait.
Donc c'est parti finalement plus d'une volonté de pouvoir continuer à travailler sur ces matières-là qui t'intéressaient dans le cadre de vie qui te convenait, plus que par exemple un rêve de devenir avocate en particulier.
Oui. Oui, c'est tout à fait ça. Mes stages d'élèves, de PPI, je les ai faits dans un milieu qui était très entrepreneurial, ce qui m'a juste donné la confirmation comme quoi un marché existait. Et c'est pour ça que je suis partie de rien, mais j'y ai cru.
Bah, et qu'aujourd'hui encore, finalement... C'est l'essentiel, hein, voilà. D'y croire, je pense, et de se donner les moyens. Et donc, t'étais juriste pendant combien d'années avant de passer le barreau ?
4 ans.
Donc, ok, 4 ans. Et donc, après, tu passes le barreau, tu l'as.
Oui.
Et là, qu'est-ce qui se passe ?
Et là, lorsque je suis élève avocate dans un cabinet en droit des affaires, ma maître de stage était une ancienne formation expert comptable, conseiller juridique, donc très très orientée droit des sociétés. Elle n'avait pas beaucoup développé la branche qui était plutôt mon secteur d'activité, qui était concurrence, propriété intellectuelle et vie économique en fait d'une entreprise. Je tombe dans le cadre d'une session de fonds sur une personne qui souhaite que sa structure soit en conformité au moment où il la cède. Donc ça m'a rappelé un peu ce que je faisais au sein de l'assurance. Alors j'ai analysé les aspects qui me concernaient, notamment celui, il avait un site e-commerce, celui de la conformité du site e-commerce à la réglementation. On était en 2013-2014 et du coup la première réglementation sur les cookies est arrivée. Et c'était une personne qui avait toujours rêvé de créer sa start-up, là il cédait pour prendre sa retraite. Et quand il a vu le travail que j'avais fait sur les sites internet et surtout cette nouvelle réglementation sur les cookies, il s'est dit bah, c'est porteur, je dois pas être le seul en France à faire ce genre de demande, si on l'en faisait quelque chose. Je suis d'accord, mais une fois qu'on a fait l'audit, c'est très bien, mais il faut surtout leur apporter la solution. Et c'est là où est né avec le temps Cookie Check, donc on s'est associé.
Donc c'était la Legal Tech dont je parlais tout à l'heure.
Voilà,
voilà.
On a décidé de s'associer, j'étais pas encore avocate hein, à ce moment-là, pour créer une société qui se dédierait à l'audit au regard donc, de la loi informatique et liberté à l'époque, de la conformité des sites internet à cette loi, et notamment sur la réglementation cookies, déjà à l'époque, qui était sortie la toute première de la CNIL, qui avait fait une vague de contrôle et quand même sanctionné assez fortement, et on leur proposait une solution qui devait... permettre une conformité technique et une conformité juridique. Je me suis dit, on va leur simplifier les choses, on va leur apporter une solution clé en main, où la seule chose qu'ils ont à faire, c'est à intégrer cet outil dans leur site internet de manière assez simple. Et toute la partie complexe et la partie de conformité juridique, c'est nous qui allons l'assurer. C'était ce que proposait Cookie Check. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, oui, ça existe, facile, Et c'est un outil qui aujourd'hui a beaucoup de concurrents, sauf qu'à l'époque, on était pionniers.
Oui.
Rien n'existait. Surtout, on ne voulait pas du tout en entendre. Parce que être conforme au RGPD, maintenant, entre-temps qu'il entre en vigueur, sur la partie site internet et cookies, c'est perdre des statistiques, risquer de perdre des internautes au niveau du suivi, de la publicité, etc.
Donc, d'un point de vue business, c'était clairement pas la priorité.
Non.
Tu disais que vous étiez pionnier dans ce domaine-là. Comment a évolué votre projet en vue de ces difficultés d'acceptation par les sociétés? Est-ce que vous avez quand même réussi à maintenir le cap?
On a un peu cru en nous. Et on a été d'abord incubé dans un incubateur parce qu'on a travaillé avec la faculté Ingémédia, donc avec le centre de recherche d'Ingémédia qui est spécialisé en recherche sur la sociologie des nouveaux outils de communication. Ensuite, on a été accéléré, donc c'est là où on a reçu pas mal de formations sur la communication, comment trouver l'innovation, rechercher l'innovation, communiquer, commercialiser autour. Et à cette occasion-là, donc on est entre-temps en 2016-2017, la CNIL avait commencé à référencer les outils qu'elle trouvait pouvant répondre en fait à ces réglementations. Et à cette occasion-là, on est allé les solliciter pour qu'ils auditent notre outil et qu'ils nous référencent. Donc, pour nous, ça a été un grand gain. Donc ensuite, une fois que le produit était prêt, donc au bout de 3 ans de recherche et développement, on a essayé de se lancer. Ça a bien marché en 2017-2018. Mais en 2018, la e-privacy n'était toujours pas une priorité. C'est très récent. C'est vraiment venu là maintenant en 2021. Et mes associés ont perdu patience. Parce que j'étais associée donc avec cet entrepreneur dont j'ai parlé, mais aussi un informaticien. Et ils avaient plus envie. Mmh. Et j'avais beaucoup, beaucoup de mal aussi à trouver du temps. Et,
parce que là, à ce moment-là, t'étais déjà avocate?
Oui, je suis avocate depuis 2015. Et malheureusement, on a dû fermer cette start-up-là juste avant, enfin fin 2020, juste avant
l'explosion
en 2021. J'ai essayé de gagner un an, mais bon, c'est dommage. Je pense que mes associés doivent se mordre.
Bah ouais.
Voilà.
Et qu'est-ce que t'as appris de cette expérience, justement, entrepreneuriale?
Beaucoup. Ça m'a formée à la pratique d'entrepreneur en tant qu'avocat. Ce qui est peut-être original, c'est que j'ai jamais été collaboratrice dans un cabinet d'avocat.
Oui, c'est ça, tu t'es installée directement.
Je me suis installée directement.
Ça, c'est assez...
C'est osé.
Ouais, c'est osé, c'est courageux.
Alors, c'est aussi dû parce que à Toulon, j'ai cherché des collaborations, mais je m'entêtais, je voulais être à Toulon et pas ailleurs. J'étais vraiment très, très bornée. Je me disais, c'est pas possible. Il doit bien avoir un cabinet qui fait un peu du droit de la consommation, du droit commercial au sens rédaction de contrats de partenariat commerciaux. Enfin, ça doit exister. C'est pas possible. Il y a des sociétés partout. Et c'est vrai que en tant que collaboratrice, à cette époque-là, les cabinets où j'ai postulé, ils voyaient pas ce qu'ils allaient faire de moi. Donc, j'avais une solution, soit partir ailleurs, dans un autre barreau. Pour moi, c'était hors de question, soit me lancer. Et donc, je me suis dit, tant qu'à faire, je préfère me lancer. On verra bien si ça marche, ça passe ou ça casse. Ça a été dur, mais bon, ça... Voilà, et après, j'ai appris tout ce qui est... donc heureusement que j'avais des confrères qui étaient là, qui m'ont soutenu, même d'autres barreaux qui m'ont formé à vraiment des choses qu'on peut apprendre qu'en cabinet d'avocat, on peut pas inventer. Après, j'ai fait beaucoup d'aide juridictionnelle aussi, qui finalement, comme beaucoup de collaborateurs ou d'avocats débutants, forment sur le tas. Voilà, mais principalement, aujourd'hui encore, je suis restée dans ces mêmes spécialités. Donc là-dessus, j'avais déjà plusieurs années d'expérience.
Oui, c'est ça. Voilà. C'est pas comme si tu sortais vraiment des études et, tu mettais à ton compte, certains le font. Hein.
Oui.
Mais là, t'avais une expérience, alors pas en tant qu'avocate, mais t'avais cette expertise que t'avais pu... déjà développé pendant tes années où t'étais juriste, donc
c'est
quand même, tu partais pas de zéro
Ça.
Mais bon, après t'as la procédure, les choses un peu plus liées au contentieux, etc.
C'est
des choses qui s'apprennent effectivement avec la pratique. Et...
C'est ça.
Donc ça devait être un peu stressant parfois.
Au début, j'étais morte de peur, c'était horrible. Hein.
C'est surtout que quand on est avocat, on engage notre responsabilité quand même.
C'est
donc,
ça.
Et donc, si on revient sur des expériences acquises du fait de ton incubation, l'accélération, etc. Tu parlais de la découverte de nouveaux moyens de communication, d'innovation, etc. Donc, c'est là aussi que t'es venu ce goût, cet attrait pour l'innovation, pour la créativité, pour d'autres façons de faire que t'as ensuite pu appliquer dans ton exercice d'avocate.
Exactement. À savoir que j'ai été incubée et accélérée dans des incubateurs entre guillemets hein, traditionnels, parce que les incubateurs des barreaux n'existaient pas encore.
Oui, bah oui.
Et du coup, on va dire j'étais un projet d'innovation comme un autre. Et entre l'incubateur et l'accélérateur, ça a été presque 2 ans de formation, plusieurs heures de formation par semaine. Et du coup, on apprenait les nouvelles manières d'innover aux États-Unis, les nouvelles manières d'innover au Japon, les techniques
génial.
Qui étaient rapportées. C'était génial. Appliquées aux besoins français. Et on avait notamment un des cours qui m'a particulièrement frappée, c'était les cours de pitch.
Alors, qu'est-ce que c'est un pitch? Parce que...
Voilà. Alors, dans le milieu des startups, le pitch, on a un temps extrêmement court. Quand je parle extrêmement court, ça peut être de 1 à maxi 10 minutes, où on doit présenter devant un panel d'investisseurs son projet et convaincre cet investisseur d'investir dans le projet, en fait, de vous choisir. Et pour cela, on apprend à structurer ses idées et surtout à y injecter une émotion, un sentiment, justement, pour que la personne qui doit écouter parfois 50 de sujets dans la même journée se souvienne de toi. Et on va s'aider. Alors, c'est pas obligatoire, mais ça peut en faire partie. On va s'aider sur un support simple, un PowerPoint, Prezi, ce qu'on veut. En partant du principe, la personne, elle est là pour vous écouter. Il faut susciter une émotion. Donc, pas besoin de mettre beaucoup de mots,
de texte.
Il faut associer une image ou un mot-clé pour permettre à la personne de suivre le fil conducteur dans un temps très court, qu'elle puisse retenir les arguments clés et l'image susciter l'émotion. Alors, moi, j'aime bien utiliser l'humour. J'aime bien la dérision.
Ça parle beaucoup, l'humour.
C'est ça. Comme dans le cas d'une dans l'introduction d'une dissertation, il fallait nous aussi trouver un fil conducteur, un fil rouge impactant, mais qui était...
Ouais, qui accroche. Capte l'attention tout de suite.
Voilà. Ça, à l'époque des cookies, moi, j'utilisais beaucoup la recette de cuisine. Donc, bon, à l'époque, c'était original par rapport à des projets qui n'ont rien à voir les uns envers les autres. Aujourd'hui, on dit, bon, cookies, recette de cuisine, il y a plein de concurrents qui ont des noms qui se rapportent à ça. Et je pitchais avec une toque de chef
génial.
Et une cuillère en bois. Et c'est vrai que c'était assez impactant parce que les gens se souvenaient toujours de la cuillère en bois et donc je faisais des jeux de mots avec les amendes pour les sanctions.
C'est sympa.
Je faisais sous forme de recettes de cuisine, voilà, pour passer le message, mais
d'une autre façon,
faire que les gens sourient.
Finalement, c'est comment la forme peut vraiment mettre en valeur le fond. Et à contrario, comment la forme peut aussi vraiment desservir le fond.
C'est ça. Pour moi, le pitch, c'est un travail sur l'utilisation du mot juste, mais il faut que le mot soit impactant.
Ouais.
Il y a une vraie structure.
Et c'est hyper général, structuré, surtout pour une courte durée comme
voilà,
ça.
Voilà, c'est très structuré. Donc, susciter l'émotion, ça veut pas dire spécialement... D'ailleurs, je fais très rarement de l'humour, du coup, dans mes plaidoiries. Je cherche pas à être drôle. Non, c'est vrai. Ça, je le fais pour des pitchs ou pour des conférences ou dans d'autres cadres où il n'y a pas d'enjeu, où je cherche justement à intéresser les personnes à mon sujet. Mais dans le cadre de pitch, je vais peut-être chercher vraiment à être synthétique et clair et direct. Donc, je vais justement faire un effort sur l'utilisation du mot et la structuration de mes idées. Sauf que je vais sélectionner
les arguments clés.
Et peut-être prendre le parti de ne pas développer telle ou telle information, mais peut-être tout simplement la développer à l'écrit par la présentation. Parce que finalement, parfois, un schéma ou une image est beaucoup plus parlante.
Oui, qu'un discours.
Qu'un discours.
Et donc, tu découvres cet exercice du pitch et tu te dis, tiens, mais en fait, c'est intéressant, je pourrais l'appliquer à mes plaidoiries. Et ensuite, comment ça se met en place
En même temps, d'une part, j'avais ces formations de pitch où on me demandait d'être impactant, d'avoir des présentations, en disant tu peux pas te présenter sans support de présentation. Tu arrives avec un document de présentation de ton idée. Et quand j'allais parallèlement plaider au tribunal, je sais que ça se passe différemment, notamment à Paris, mais à Toulon, il faut tout expliquer. On fait pas juste des observations, c'est assez rare. Du coup, chacun avait son support, chacun avait ses plaidoiries, donc assez rapidement, une 20aine, une 30aine de pages, et on racontait toute son histoire comme si le magistrat découvrait. Et ce dont je me rendais compte, c'est que moi, en tant qu'auditeur, j'avais du mal à les suivre, et je me disais, si j'étais magistrat à sa place...
Ouais, avec un enchaînement de je sais pas combien de dossiers,
dossiers
à la suite...
Alors, s'il les a révisés, ça va être simple, mais s'il a pas eu le temps de les lire, mon Dieu, ça doit être compliqué de le suivre. Et il y en a qui plaidaient pendant 45 minutes ou 1h30. Garder le fil, même si on est une personne concentrée et rigoureuse, c'est compliqué. Et je me disais, mais pourquoi, alors que je vois dans toutes les autres professions, on vous dit que c'est pas possible de présenter un projet dans une réunion d'entreprise sans support, pourquoi chez nous, les avocats, on pense que ce n'est pas quelque chose qui est utile? Et que rien qu'avec notre art oral, on s'en sortirait. Même si on est le plus talentueux, on décroche, l'être humain.
Ça aide à garder l'attention, c'est vrai.
Voilà. Et c'est pour ça, je me suis dit, on va tenter. D'ailleurs, au départ, je me croyais pas du tout innovante. Moi, j'étais persuadée, comme j'avais l'habitude à cette époque-là, j'avais pas encore plaidé à Paris, que c'était peut-être une pratique qui était pas encore descendue dans le Sud, mais que dans les grands procès internationaux ou d'affaires, ou comme c'est quelque chose tellement naturel pour les entrepreneurs, oui, pour le monde des affaires, je m'étais dit que en droit des affaires, en plaidoirie, ça devait être
même dans
quelque
dans...
chose déjà oui, fait. C'est ça. Et pas original.
Même dans les entreprises, quand tu vas présenter un projet, une idée, ou au COMEX, etc., tu parles pas pendant 1h30. Hein, et en tout cas, ta présentation, effectivement, t'as des slides de présentation. Ça suit ce même modèle. Et effectivement, ça s'applique à peu près tous les domaines, à part le droit.
C'est ça. Donc sincèrement, je me croyais pas original. Et c'est en parlant avec les membres d'Avotech, justement,
parce que tu es membre d'Avotech.
Je suis membre d'Avotech. Et du coup, je me disais, oui, mais à Paris, ça doit être monnaie courante. Et tous m'ont dit, mais non, pas du tout. Jamais entendu, je connais personne qui fait ça, jamais entendu parler. Et c'est comme ça, je me suis dit, bon, bah tiens, j'ai vu qu'il y a le concours de l'innovation. Après avoir tenté ma chance au tribunal de commerce de Paris, on va en parler ensuite, et avoir réussi au tribunal de commerce de Toulon à plaider, à pitcher de cette manière-là, je l'ai proposé en tant que projet innovant au concours du village de la justice. Mais je pensais sincèrement ne pas l'être.
Et juste pour ceux qui connaîtraient pas Avotech, est-ce que tu peux juste présenter rapidement ce que c'est ?
Alors Avotech est une association qui rejoint les avocats qui ont une legal tech ou un projet innovant, une pratique innovante qui reprend un peu les codes des startups dans leur cabinet d'avocat. Donc on retrouve des avocats qui ont créé des réseaux sociaux de mise en relation de clients avec des avocats qui ont mis en place des offres qui permettent de simplifier ou d'informer dans des procédures qui sont en général orientées particuliers, des procédures de droit social ou de règlement de litige de la consommation comme dans les transports aériens ou de divorce par consentement mutuel. Et ce qui nous réunit, c'est que on a une vision, on essaye de, entre guillemets, peut-être dépoussiérer une certaine vision de la profession. Mais ce qui nous réunit tous, c'est qu'on veut vraiment préserver la déontologie qui nous différencie des acteurs qui sont sur la legal tech, mais qui sont pas avocats.
Et donc, tu te présentes donc au concours du village de la justice. Comment ça se passe ?
Ah bah là aussi, ils me disent que je suis innovante et que je suis parmi les finalistes. Alors je pense que le Covid a fait que le confinement, on n'a jamais eu les résultats.
Ah mince.
Oui, je sais pas du tout qui les résultats n'ont jamais été publiés. Donc parce que à cause du confinement, on devait pitcher en tant que finaliste nos projets, ces pitches n'ont jamais eu lieu et je pense qu'il est parti c'est tombé dans
aux oubliettes.
Aux oubliettes parce que entre-temps, il y a eu la session 2021.
Ouais.
Bon, alors après c'est pas grave,
Mais c'était une belle expérience.
C'était une belle expérience, ouais.
Et alors, comment ça se matérialise quand tu dis « je pitch mes plaidoiries », donc comment ça se passe ? Qu'est-ce que ça a changé dans ta façon de faire ?
Alors, ce qui change, c'est qu'on va utiliser aussi une nouvelle terminologie à la mode qui s'appelle le « legal design ». C'est comment passer un message juridique à travers d'icônes ou de schémas ou de restitutions en phrases plus courtes.
Oui. Mais en termes d'intelligibilité du langage.
Voilà, tout à fait. C'est quelque chose aussi qui est tout à fait naturel et évident dans tous les autres secteurs d'activité. Non, c'est vrai.
Mais oui, c'est vrai.
Mais oui, c'est pour ça. Je pensais pas non plus que ça allait être une démarche innovante. Mais dans le cadre du pitch sur cette forme-là, c'est nécessaire. Parce que si on a un support, donc un PowerPoint qui derrière, phrase par phrase, cite les jurisprudences, les dispositions de droit et les arguments clés tels qu'on l'a mis dans nos conclusions, pour moi ça sert à rien déjà parce que les auditeurs vont plus lire le texte que nous écouter
ouais.
Alors que l'important c'est de nous écouter et que le support n'est justement qu'un support pour illustrer ce qu'on dit.
Ça va accompagner, mais exactement. Ça doit pas être tout ton...
Tout à fait.
Ça, c'est un peu le piège.
C'est le piège. Pour qu'on puisse vraiment être impactant, ça nous oblige aussi au moment de la rédaction des conclusions de visualiser ce qu'on souhaite dire comme argumentation qui pourrait être impactante. Donc, quand je rédige des conclusions que je souhaite pitcher ensuite, je vais évidemment rester rigoureuse et j'enlève absolument rien dans la qualité et la manière de rédiger.
Oui, t'as une partie classique finalement de rédaction.
Classique de rédaction avec l'application du syllogisme. Mais peut-être dans la partie démonstration de mon argumentation, je vais essayer de chercher des informations qui vont être différentes, impactantes, auxquelles peut-être on se dit en tant que juriste, je n'en ai pas le besoin. Mais si j'ai envie de marquer, ça peut valoir la peine. Par exemple, quand on veut plaider notamment sur une chute du chiffre d'affaires, eh bien, on va peut-être rapidement parler ou peut-être présenter les bilans. Mais si on veut faire que ça soit rapidement compris, saisi, on va faire peut-être un graphique qui va illustrer donc tout à coup cet argument qu'on doit expliquer donc en telle année il a fait tel chiffre d'affaires, il y a eu le litige, il y a eu le problème juridique, du coup il a perdu du chiffre et ensuite il est remonté, comme vous pouvez
vous pouvez le constater dans les bilans.
Ok, on a les bilans en tant que preuve, mais
ouais, là t'as ce graphique qui parle tout de suite.
Voilà, on dit comme vous pouvez le constater dans le graphique et c'est beaucoup plus clair. Pareil, quand on veut parler sur une accumulation, eh bien, au niveau de l'image, on va ensuite travailler avec cette accumulation. Donc, c'est aussi de l'image animée que j'utilise. Je vais peu à peu faire apparaître de plus en plus d'informations pour montrer cette accumulation. J'ai plus besoin de l'exprimer à l'oral, vu que mon support est en train de le dire. Mmh. Finalement, on travaille beaucoup le non-dit.
Oui, c'est vrai. Ouais. Et quand tu parles d'accumulation, tu fais référence à quoi ?
Je dis par exemple, beaucoup en 3D marque, c'est pertinent, notamment quand on veut essayer de démontrer que le terme est descriptif ou générique et qu'au niveau des marques, il a plus cette puissance de protection.
Oui, parce qu'il est utilisé en fait par beaucoup de marques.
Voilà, eh bien on va faire apparaître les différentes marques au fur et à mesure qui sont dans le même secteur d'activité, évidemment, il faut que ça soit pertinent en montrant, vous voyez, comme vous pouvez le constater... sous forme de nuages de mots ou de nuages voilà de marques avec leur logo, la marque qu'on est en train de contester n'est pas du tout originale.
Donc il y a ce que tu décrivais là. Est-ce qu'il y a d'autres visuels, d'autres choses que tu intègres comme support de pitch, de présentation? Qu'est-ce que tu peux utiliser d'autre?
Alors moi j'utilise beaucoup les frises. Parce que c'est vrai, alors là, en plus, c'est d'autant plus intéressant quand on a des forclusions ou des prescriptions à plaider. Avec une frise qui va chronologiquement expliquer le litige, ça devient tout de suite plus clair et on n'a plus besoin d'essayer de plaider ou d'illustrer avec les dates. On le voit d'un coup d'œil, si on n'y est pas. Pareil, quand on a des problématiques juridiques, où il y a des montages juridiques ou des montages contractuels qui se font, si on les illustre à travers d'un système de hiérarchie ou on les schématise, pour le coup, je travaille avec beaucoup les options animées de PowerPoint qui permettent carrément de créer comme un espèce de petit dessin animé ou de film. Alors, c'est pas du tout, je suis pas du tout dans l'humour, j'insiste, un dessin
animé.
Pas dans
les gifs.
Non, pas du tout. Mais, par exemple, si on veut illustrer un transfert de propriété et la contrepartie pécuniaire pour voir le flux de ce transfert et de ces échanges, eh bien, si on arrive à les illustrer de manière imagée, en voyant comment ils circulent d'une partie à une autre, on comprend beaucoup plus vite que si on doit lire un paragraphe qui fait 15 lignes ou l'expliquer à l'oral pendant 2 minutes. Mm-hmm. L'image a déjà tout expliqué, donc on gagne du temps là-dessus.
Oui. Et donc, en fait,
et on peut se concentrer sur l'essentiel.
Ouais, c'est ça. Et tu peux, du coup, présenter peut-être aussi d'autres arguments que t'aurais pas eu le temps de présenter si tu avais, justement, fait ta présentation d'une façon plus classique en restant sur, du texte.
C'est ça.
Et donc, des schémas, des frises, des animations. J'imagine il y a aussi d'autres choses, mais c'est déjà bien. Et donc ça, est-ce que ça constitue par exemple une ou plusieurs pièces à part que tu joins à tes conclusions, ou est-ce que ça s'intègre à tes conclusions? Comment ça se passe?
Alors maintenant, je les intègre de plus en plus à mes conclusions.
Tu faisais pas ça au début?
Au tout début, il y avait ce problème déontologique. Pour moi, le support de plaidoirie, j'apporte rien de nouveau. Tout est déjà dit dans mes conclusions, donc dans la partie mise en état. Donc pour moi, ça me semblait logique que je n'ai pas à dévoiler mon support de plaidoirie avant l'audience. En plus, c'est énormément de travail, alors qu'on aurait tout le temps entre la clôture et la plaidoirie pour faire ce travail-là. N'empêche, le support, même si on n'a pas encore exprimé à l'oral ce qu'on voulait dire, ça reflète vraiment largement sa stratégie. Et du coup, c'est encore un argument ou une aide finalement donnée à la partie adverse, comme j'ai pu m'en rendre
constater.
Le constater. Voilà. Sauf que la première fois que j'ai voulu présenter cette méthode de plaider, on m'a opposé du fait que c'était quelque chose de nouveau et donc qui devait être contradictoire. Donc j'aurais dû le communiquer avant. Alors, j'aurais pu faire un incident, je n'ai pas osé le faire. Du coup, j'ai pas de décision qui me dit clairement la déontologie ou pas. Ça. J'ai quand même, pour ma deuxième tentative, demandé conseil à mon bâtonnier pour savoir ce qu'il recommanderait. Il m'a dit, bon, quand même, comme ça, au moins, t'as pas de problème, faudrait mieux le communiquer avant.
Mais t'as jamais eu envie de provoquer justement un incident pour avoir une décision qui te dise clairement, bah, je dois le soumettre ou non? Parce que c'est vrai que t'as quand même ce côté où effectivement tu donnes des billes à la partie adverse sur ta stratégie. Et puis en plus, en termes d'organisation, ça veut dire que il faut que ta stratégie de plaidoirie, tu l'es figée finalement en amont de la clôture d'instruction. Pourtant, ça peut aussi évoluer au fil du dossier, etc. Ça prend du temps en plus à préparer.
Oui, ça prend du temps. Oui, peut-être un jour j'oserai le faire. Pour l'instant, du coup, c'est pour ça que je l'ai intégré de plus en plus. Donc toute la partie visuelle, je l'intègre de plus en plus dans mes conclusions classiques, titre d'image, démonstration, pas à part, pour que ça se reperde à nouveau
dans le flux
des conclusions.
Ce ne sont plus des pièces à part que tu joins à la fin, vraiment.
C'est ça.
Voilà, tu les intègres directement.
À l'intérieur. Donc du coup, on pourra pas me reprocher de pas les avoir communiquées, parce qu'après, mon support de plaidoirie, finalement, deviendrait des extraits de mes conclusions. Mais ça veut dire aussi d'anticiper encore plus qu'avant mes arguments que j'aimerais déjà plaider. C'est-à-dire qu'au moment des premières conclusions, je suis déjà en train de penser à la plaidoirie.
Mais c'est pas évident, parce qu'en plus, au moment des premiers jeux de conclusion, t'as pas encore tous les arguments aussi de la partie adverse et qui peuvent faire évoluer clairement ta stratégie et ton argumentation à toi.
C'est ça.
Mais c'est effectivement ce que tu dis sur la déonto. Il y a que la forme finalement qui change. Mais est-ce que, tu vois, moi je me dis, tout le monde vient avec des notes de plaidoirie. Il y en a même qui font des schémas, mais à la main ou bref, enfin ils ont leur truc. En quoi finalement ce que tu proposes toi se différencie de ça, mis à part que effectivement c'est un support et que tu projettes, c'est ça?
Exactement, oui, ça aussi il y a un petit peu de logistique, c'est de devoir demander au tribunal de mettre en place les moyens pour projeter.
Et ça se fait facilement?
Alors pour l'instant au tribunal de commerce, oui, ça se passe assez facilement parce qu'ils utilisent justement ces outils dans les cadres des contentieux de procédure collective où justement comme il y a beaucoup d'interventions de commissaires aux comptes, de mandataires judiciaires,
c'est dans la logique des
dans la logique, ils présentent les chiffres, ils présentent l'évolution, donc eux oui, font des présentations, c'est tout à fait naturel. Alors c'est peut-être pour ça que l'acceptation en fait de cette méthode est plus simple au commerce parce que finalement il y a des secteurs où ils projettent bien des choses.
Et est-ce que tu as déjà utilisé cette méthode dans des juridictions, par exemple, civiles, plus classiques?
Alors, civiles, classiques, non, parce que finalement, je plaide pas beaucoup au tribunal judiciaire. Par contre, si dans les procédures un peu alternatives, type à l'INPI ou à l'EIPO, là oui.
L'EIPO, c'est quoi?
C'est la structure européenne en droit des marques.
Donc t'as pas expérimenté encore ça dans des juridictions pour aussi y a des personnes qui écoutent et qui se disent tiens, est-ce que...
Je vais avoir un procès, parce que j'ai un procès en droit de la consommation qui se passe justement devant le tribunal judiciaire, donc là où j'ai intégré dans mes conclusions mes arguments. Mais bon, on en est au début de la procédure, on verra.
Ouais.
On verra déjà si elle aboutit.
Tu nous diras.
Voilà, on verra si elle aboutit et dans ça sera typiquement, je plaiderai comme ça.
Toute cette démarche-là, elle est partie du fait que t'avais envie d'être plus claire et impactante dans tes plaidoiries. Du coup, ça rejaillit aussi sur tes conclusions. Quel est ton retour par rapport à ça et quel est le retour que t'as pu avoir des magistrats, des autres confrères?
Alors, de manière générale, ceux qui ont été présents ont beaucoup apprécié parce que justement, les magistrats me disent qu'ils ont mieux compris et du coup, ça leur a vraiment permis de suivre clairement l'argumentation et le fil conducteur en fait de la procédure. La majorité des confrères sont déstabilisés. ceux qui comprennent la démarche, ça leur semblait logique. Par contre, une grosse charge de travail en plus dans le cadre de la procédure contentieuse.
Et le retour de tes clients par rapport à cette nouvelle façon de présenter tes conclusions et de plaider?
Alors mes clients sont très enthousiastes. Hein. Tous sont très très enthousiastes sur cette manière de plaider parce que c'est quelque chose qui pour eux est très familier. Et par ailleurs, en général ce sont des non-juristes où en tout cas des non-spécialistes de la matière dans laquelle j'interviens, et ça leur permet de comprendre très rapidement le problème. Et moi, j'ai cette philosophie en me disant que le plus important, c'est de satisfaire mon client, que je gagne ou que je perds. Si mon client a le sentiment qu'il a été bien défendu, il sera satisfait. Et donc, si mon client a compris l'argumentation juridique qui parfois peut, enfin surtout dans les matières telles que les miennes, peuvent être très complexes, technique. Très techniques. Donc, si lui, il m'a compris, c'est que tout le monde peut me comprendre.
Et est-ce que ces schémas, ces frises, enfin les visuels que tu peux intégrer, dont tu vas te servir ensuite pour ta plaidoirie, tu disais qu'il y a une partie classique de rédaction, comme des conclusions normales, et ensuite tu ajoutes ces éléments-là. Tu le fais pour chaque moyen ou tu le fais uniquement pour certains moyens que tu as identifiés, que tu reprendras justement, sur lesquels tu insisteras lors de la plaidoirie?
C'est très opportun. Donc je ne cherche pas absolument pour chaque moyen à trouver une réponse imagée. Je le fais quand je pense que c'est pertinent.
Tu parlais de temps tout à l'heure, que ça pouvait effrayer certains confrères justement de se dire « Ah, mais finalement, ça va me prendre encore plus de temps alors que je manque déjà de temps ». Qu'est-ce que ça représente en termes de temps supplémentaire passé sur un dossier, le fait d'intégrer justement cette nouvelle méthode ?
Alors c'est vrai qu'au début, au tout début, ça m'a semblé très long. Aujourd'hui, maintenant que ça fait plusieurs années que j'utilise cette méthode, c'est devenu quasiment naturel. Enfin, je mets pas beaucoup plus de temps que des conclusions normales, parce que au fur et à mesure, spontanément, l'idée, la manière dont je veux le concevoir jaillit. Et puis, je me suis aussi tout simplement améliorée dans l'utilisation des outils. Donc, je dessine mes schémas beaucoup plus vite. Je connais les options. Voilà. Là, en revanche, où sincèrement, ça fait gagner du temps. Ce que j'ai pu remarquer quand on plaide sans support, donc avec ses notes, si ça dure autant de temps, c'est parce qu'on a tendance à divaguer ou on se perd dans ses propres propos. Alors que là, comme on a bien travaillé sa structure, donc ce qu'on va dire tout au long, on arrive à maîtriser le temps de parole lorsque l'on plaide. Et de plus en plus, et ça, pour le coup, c'est commun à toutes les juridictions, de plus en plus, les magistrats vous donnent un temps imparti ou veulent que ça soit le plus bref possible. Mmh. Et c'est vrai que quand on a des matières qui sont extrêmement complexes, être bref peut s'avérer un vrai challenge.
Si on ne s'est pas préparé,
et donc être bref peut, pour certains, vouloir dire « Ok, 30 minutes, 45 minutes », et puis quand le juge, le magistrat arrive, lui dit « Non, ça sera fait en 10 ou 15 »,
mais ça change complètement, ça peut vachement déstabiliser pour le coup.
Ça déstabilise le confrère. Alors que, avec cette méthode-là, comme on se prépare bien à l'avance, et finalement, on va cadrer ce qu'on va dire, on peut aussi cadrer le temps. En moyenne, on parle toujours de 2 minutes par slide. Donc si on sait qu'on a 10 minutes, ça sera 5 slides.
Et tu, en termes de temps justement, est-ce que tu te forces à ne pas dépasser un certain temps pour tes plaidoiries, ou est-ce que ça varie en fonction des dossiers ?
Ça varie en fonction des dossiers, mais c'est vrai que je dépasse rarement 15 minutes. Hein.
Ouais, donc c'est quand même relativement court.
Oui.
Donc là, on parlait de la plaidoirie et de ta façon de conclure, etc. Mais tu as aussi créé une plateforme collaborative pour tes clients. Qu'est-ce que fait cette plateforme, et puis qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre à disposition de tes clients une telle plateforme ?
Alors aujourd'hui, je suis très active dans le domaine de la protection des données, donc en tant que DPO externalisé, donc délégué à la protection des données externalisée. C'est un espèce de mélange entre le juriste, l'informaticien, plutôt le RSSI, donc le responsable de sécurité informatique, et l'auditeur qualité ou l'auditeur interne. En tant que DPO, on doit faire des analyses de risque, faire des rapports, faire des tableaux de bord, avoir vraiment documenté la totalité de nos actions qu'on fait de la conformité au RGPD. Et au final, ça devenait au départ tout simplement difficile à gérer par un mail. Même les outils de gouvernance des données qui existent sur le marché vont vous aider beaucoup pour la tenue des registres obligatoires, mais pas la relation entre le DPO et les autres services, s'il est en interne ou avec ses clients. Donc j'avais besoin d'un mode d'échange, et surtout je représente des structures critiques dans les données médicales ou des collectivités publiques, et donc très vite ça devenait ingérable d'échanger par mail tous les jours. J'étais assaillie de mails.
J'étais noyée.
Et ce qui était devenu aussi ennuyeux, c'est l'échange d'informations à caractère confidentiel que j'avais pas envie, qui passe spécifiquement par mes mails ou par d'autres plateformes, même si ça faisait longtemps que j'avais pris des plateformes d'échange sécurisées. Et c'est là où je me suis dit, bah, si on utilisait une plateforme, une espèce d'intranet, mais pour mes clients, comme d'ailleurs c'était déjà l'usage depuis longtemps dans les entreprises, où à l'intérieur, toutes les informations, donc pas seulement les documents, mais aussi tous les échanges que je peux avoir, les petites questions, les petites choses du quotidien que je peux avoir avec mes clients, mais je les retrouve dans un même endroit.
Tout est centralisé.
Tout est centralisé avec des tableaux de bord. Donc moi, avant, j'utilisais, aujourd'hui, j'en ai honte, hein, j'utilisais du Slack, mais qui est public, c'est pas très sécurisé, des tableaux
mais
très lourds.
Beaucoup d'avocats. Hein.
Qui sont pas sécurisés. Je suis, non, mais je mets quand même des informations sur des structures, j'ai pas du tout envie que ça tombe, voilà, dans n'importe quel, qu'il y ait des fuites. Et du coup, j'ai trouvé une plateforme qui me garantit la sécurité informatique, qui est entièrement confidentielle, souveraine en France, et qui me donne tous ces outils à destination de mon client, et au lieu d'aller se connecter sur plein d'endroits, tout est réuni à un même endroit.
Et donc cette plateforme s'appelle comment ?
Alors, moi j'ai appelé ma plateforme Guacamole. voilà, c'est un éditeur français qui est reconnu justement dans les systèmes d'intranet et de travail collaboratif qui le supporte. Mais c'est vrai que j'avais envie de donner un petit... c'est mon côté autodérision de sujet très sérieux.
C'est drôle. Et donc cette plateforme, tu as utilisé un outil existant.
Oui.
Et tu l'as pas développé toi-même ?
Alors partiellement, j'ai utilisé une structure existante, mais qui à l'intérieur, je la personnalise avec des applications aussi avec un peu de développement. J'ai mis des liens vers mon blog pour que mes clients puissent avoir les actualités. J'ai mis des liens vers notre espace d'échange sécurisé. Mais sinon, ils proposent des applications de tableau de bord type Trello, des applications d'échange ou de visioconférence intégrées sécurisées, un système d'FAQ. Parce que finalement, la relation DPO est une relation en continu. C'est un peu comme si j'étais un juriste interne de la structure, mais spécialisé sur les questions du RGPD.
Tu fonctionnes sous forme d'abonnement en plus avec
oui.
eux, non ?
Oui, oui, avec un certain nombre d'entre eux. Et mes relations avec ces structures-là est en général très longue. C'est à minima 6 mois. Très souvent, c'est 1 an à 2 ans pour arriver à un niveau de conformité acceptable aux standards de la CNIL, parce que réaliser les registres, c'est quand même assez long et toute la mise en conformité est longue. Donc du coup, pendant tout ce temps-là, j'ai besoin de garder un lien. Et il y a toujours des petites questions juridiques qui arrivent. Oui, j'ai envie de répondre aux clients, mais si c'est noyé dans un mail, parfois j'oublie. Ou si c'est par téléphone, c'est un temps que j'ai perdu. Et lui aussi, il sent aussi, enfin, il y a vraiment des petites questions où il sent aussi de me déranger par téléphone, si on pouvait le faire autrement. D'où l'intérêt de ces FAQ, où il y a déjà des questions de réflexes juridiques à avoir sur des petites questions simples. Où elles sont répandues et qui mettent à disposition un centre de ressources, une base d'informations qu'on va trouver ni sur la CNIL, ni facilement sur les moteurs de recherche. C'est des questions très opérationnelles. Un exemple, en cas de piratage de ma structure, j'ai un problème.
Oui.
Première chose à faire, qu'est-ce que je dois faire ? Donc une petite note, la première réaction en cas de tel piratage, vous faites ça, voilà ce que vous avez à préparer avant de m'appeler. Parce que c'est notamment, on rentre dans une situation où on a 72 heures pour réagir.
Ouais, c'est hyper
rapide. Voilà. De savoir analyser.
Et toi, t'es pas forcément disponible à ce moment-là.
Je peux vous dire que jusqu'à maintenant, à chaque fois, c'est tombé en week-end, un vendredi soir. Donc, il y a eu des fois où j'étais au courant des jours plus tard. Il y a eu d'autres où j'étais bien contente qu'ils aient déjà une petite idée de démarche à suivre. Et du coup, ce qui était vraiment ultra urgent a pu attendre le jour ouvrable où j'étais plus disponible. Parce qu'en plus, ils osent pas vous appeler, les clients, parce qu'ils savent que vous êtes en week-end.
C'est clair que c'est pratique d'avoir ces premières informations. Et donc, ta FAQ, tu l'as constituée avec les demandes que tu as pu avoir de tes différents clients sur les questions récurrentes. Tu t'es dit, finalement, autant les intégrer là pour que ça serve. Du coup, c'est accessible à tous les clients qui ont un accès à ta plateforme.
C'est ça, c'est-à-dire que dans le cadre de mes abonnements, j'intègre aussi cette relation. C'est pour ceux qui ont un abonnement justement de conseil en continu. Évidemment, c'est juste une amorce, hein. C'est censé les aider dans des petites questions où ils ont besoin rapidement d'avoir une réponse. Dès que c'est plus complexe, il y a un espace un peu comme les tickets de maintenance
pour informatique
où ils me posent leurs questions. Alors ça, c'est aussi très pratique parce que ça me permet de gérer moi-même le flux et les demandes sans en oublier. Le client donc me pose sa question dans un espace spécifique et moi...
C'est un chat du coup dans lequel il te pose sa question
ou... Alors il y a le chat, mais il y a surtout l'espace, ça s'appelle question-réponse. Donc il pose une question. il envoie sa question, moi elle apparaît et j'ai un bouton qui me dit réponse, réponse traitée, enfin choisi ou pas choisi. Donc à travers de commentaires, ça peut être aussi par exemple le client, je lui dis bon là vous me donnez pas tous les éléments, veuillez développer. Donc il y a un espace de chat dédié à cette question-là qui me permet moi ensuite, une fois que j'ai la réponse définitive, de pouvoir sélectionner la réponse la plus appropriée et par ailleurs bah, faire des gros travaux, des gros actes, type des contrats ou des conclusions et sans jamais oublier ces petites questions.
Parce que du coup, dans cet espace de questions-réponses, tu as en fait un peu l'historique des questions posées par tes clients et toi des réponses que tu as apportées. Tu peux aussi facilement voir du coup si les questions posées ont été traitées. Est-ce qu'il y a un moyen de, sans aller dans chaque dossier, enfin chaque client, de voir toutes les questions en suspens oui. auxquelles tu n'as pas encore
Justement,
répondu ?
Justement, on a plusieurs méthodes de le voir. Alors, pour respecter la confidentialité, les clients entre eux ne se voient pas, ils ne connaissent pas et rien n'est échangé. Donc
c'est cloisonné en fonction
des clients. C'est une vraie cloison qui a été faite. Mais moi qui ai accès à tout, je vois tout. Et donc, je peux soit par groupe, donc par client, identifier les questions qu'ils m'ont posées. Et j'ai un système de notification. Donc, je vois quand il y a une nouvelle question ou une nouvelle demande dans chaque groupe
et
qui apparaît.
Et eux aussi ?
Alors, eux aussi, oui, évidemment.
Si tu réponds,
dans leur
quand
groupe,
tu réponds.
Exactement. Ils reçoivent une notification dans la plateforme qui le dit que j'ai fait une action, telle ou telle action, ou telle réponse a été traitée. On peut même se mettre des notifications par mail. Et du coup,
oui.
on a des renvois de mail. On peut s'envoyer aussi des mails sur la plateforme pour justement bah, notamment organiser ses dossiers et mémoriser certains mails qu'on veut conserver.
Ça, tu peux synchroniser du coup ta boîte
oui.
mail avec l'outil et
oui.
avoir aussi par client, par dossier,
oui.
Tous les
Tout
échanges de mails en plus des questions-réponses,
oui.
etc.
Oui, et les questions-réponses, elles, de mon côté, sont centralisées dans un fil où je vois qui a posé la question et dans lequel groupe c'est, mais tout est mélangé, ce qui me permet de pouvoir les traiter chronologiquement aussi. Je
oui.
peux le voir de manière séparée, mais je peux aussi le voir de manière mélangée, tout en montrant toujours qui est à l'origine de la question.
Oui,
et
oui.
la réponse va toujours s'afficher uniquement dans le groupe.
Bien sûr.
Après, j'ai des options qui me permettent de les transformer en FAQ. Et les FAQ, pour le coup, sont accessibles à tous.
Et donc, comment tu fais pour transformer en FAQ? Parce que j'imagine que du coup, tu dois aussi généraliser un peu la réponse.
Voilà,
pour
voilà.
Que ça
c'est pas toutes les
le...
questions. Après, l'option, elle est très simple parce que c'est un petit bouton qui dit transformer en FAQ, on transforme en FAQ. Et là, on va anonymiser la
oui,
question.
Tu peux modifier,
on
coup,
peut modifier la question, la préciser pour qu'elle s'intègre dans les FAQ. Et puis, je le fais quand les questions peuvent être généralisées.
Oui, c'est
toutes,
ça, parce que
c'est
toutes
pas le cas,
ne sont pas forcément.
Non.
Et est-ce que tu peux transformer cette FAQ en chatbot?
Oui, tout à fait. Pour l'instant, j'en suis au travail de constitution d'une base de données. Je suis à peu près déjà à 150 questions. Mais j'aimerais beaucoup, effectivement, il y a une option chatbot. Donc, je suis déjà en train de travailler à cette transformation parce que finalement, on parle d'IA, mais l'IA, c'est surtout des petites mains derrière
ouais.
l'intelligence artificielle. Et du coup, bah, la création du chatbot fonctionne par système de mots-clés. Ou comme dans Facebook, on va taguer les amis. Là, je vais taguer les questions en fonction de sujets clés pour qu'ensuite, potentiellement, dans le futur, le chatbot puisse identifier à partir des mots-clés des questions qu'on va poser librement, ben, potentiellement les réponses qui pourraient être pertinentes.
Ouais, parce que le chatbot, il y a quand même une couche supplémentaire, c'est de réfléchir à toutes les façons au travers desquelles un client va pouvoir poser une même question. Et en fait, il y a plein de façons de poser une même question.
Mmh.
Du coup, comment tu fais le lien entre ça et justement rattacher toujours à la bonne question pour que ça soit pertinent et qu'ils aient les réponses qui, finalement, les intéressent.
Alors là, il y a des systèmes de statistiques qui sont mis en place au sein de cette plateforme qui va proposer plusieurs questions en fonction des FAQ déjà posées où on doit confirmer si statistiquement c'est vrai, ça se rapproche ou pas de la question à traiter. Et on peut jauger. Mais ça, c'est voilà, c'est un vrai travail de préparation. Pour moi, je pense pas être prête.
Ouais, c'est un gros boulot en
ouais.
amont, hein, c'est
ouais.
clair. Déjà, t'as effectivement tout le travail de la base de questions-réponses.
Voilà.
C'est sans ça, t'as pas de chatbot.
C'est ça.
Mais après, effectivement.
Et après, aussi, le travail d'étiquetage
ouais,
des mots-clés pertinents, c'est...
C'est un gros boulot aussi.
C'est
hein.
un gros boulot parce que...
Faut pas se tromper, en plus.
Et puis, il faut créer ces mots-clés.
Oui,
il faut les
tout
créer.
À fait.
Voilà.
Bon, bah, donc ça, c'est ton chantier en cours.
Voilà.
Tu disais que tu utilisais un outil existant. Comment il s'appelle, cet outil?
Jamspot.
Jamspot. Ok. Bon, je mettrai le lien dans les
oui,
les notes.
Oui, Jamspot.pro, un des rares acteurs français qui fait donc concurrence à des plateformes type Teams pour ceux qui
ouais.
sont plus familiarisés avec les plateformes américaines.
Et donc, tu disais qu'à la base, c'est plus un outil d'intranet. Donc, est-ce que tu as dû adapter ça aussi pour que ça se prête à ta pratique en tant qu'avocate et notamment aussi sur les questions de confidentialité, sécurité?
Oui, oui. Alors pour moi, avant de souscrire à cette plateforme, c'était vraiment le point essentiel numéro un. Et donc la question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé dans la phase de test de la plateforme, c'était justement la possibilité de savoir ce qui est cloisonnable, ce que je pouvais cloisonner, ce que finalement j'avais pas envie de cloisonner, par exemple comme les FAQ ou un système de flash info, ou aussi j'ai développé un système de boîte à outils.
Flash info, du coup, c'est quoi
Là, je l'ai fait passer. Alors j'ai fait mon propre montage avec mon blog qui permet. Mais après, moi, je suis pas informaticienne, je suis pas développeuse. Je suis sûre qu'on pourrait
aller plus loin.
Mais bon, moi, j'ai trouvé le lien en créant des renvois vers mon blog et du coup en mettant à disposition par un clic, on peut savoir les derniers articles que j'ai publiés. Voilà. Après, ce que j'ai surtout réussi à faire, c'est vraiment à créer des groupes de travail. Parfois, j'ai pas juste un intervenant, mais j'ai plusieurs intervenants au sein du même groupe au niveau de mes clients, et ça permet vraiment à tout le monde, en fonction des droits, je vais lui donner.
Oui, c'est toi qui gères les droits d'accès de chacun. Tout le monde peut travailler ensemble.
C'est ça. Je veux dire, cette plateforme, elle est même disponible sur le téléphone ou la tablette. Il y a un espace d'édition en ligne, on peut travailler ensemble. On peut travailler ensemble sur le document et le faire évoluer en même temps, tout en étant en visio en même temps. C'est vraiment du collaboratif.
Oui, finalement, ça regroupe vraiment plein de fonctionnalités, d'outils existants, mais qui sont séparés. Et là, tu as tout
sur un même lieu.
Tu parlais du fait que tu as créé aussi une boîte à outils numérique. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est une boîte à outils qui va référencer les outils numériques juridiques, par exemple la signature électronique, le coffre-fort électronique, où je vais expliquer en général, il faut une certification. Donc, je vais déjà lister les outils qui ont été référencés par les autorités et expliquer un peu le droit applicable. Je vais promouvoir, alors pas des acteurs, mais promouvoir ces nouveaux outils qui vont simplifier la relation contractuelle ou juridique, notamment des nouveaux outils de veille que met en place Infogreffe, par exemple, l'archivage électronique, le recommandé électronique,
plein de choses très utiles qui simplifient finalement le quotidien.
Oui, mais aussi la relation juridique. Donc, le juridique aussi se transforme.
Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités de cet outil que tu n'aurais pas présentées?
Alors, oui, alors ça, c'est plutôt du travail interne. Il l'appelle le Spotit, mais c'est un outil où on peut étiqueter ou mémoriser, intégrer dans sa plateforme des sites internet, n'importe quel site internet. Et moi, je l'utilise pour de la veille. C'est tellement pratique. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller prendre sa veille, la télécharger, l'insérer quelque part dans le fichier et après ne plus savoir à quoi c'était relié, là, on peut directement l'insérer à la plateforme, le relier à son dossier et revenir dessus. Et que c'est pas juste de la veille juridique ou une décision juridique, c'est n'importe quoi qui est sur Internet.
Mais du coup, ça se présente comment
Eh bien, c'est un petit bouton qu'on va intégrer sur son navigateur et on clique dessus et après, on fait une courte présentation, donc une phrase. On va dire à quel endroit exactement on souhaite le rattacher, donc à quel dossier on souhaite le rattacher. Et ça s'intègre exactement là où on a décidé de l'intégrer. Et si on veut l'ouvrir, par exemple, si c'est une jurisprudence de procédure qui pourrait être pertinente pour pas mal de dossiers de contentieux, on peut aussi directement la faire enregistrer dans plusieurs groupes de travaux. Donc, vous voyez, c'est les lieux de mes clients. Et en base de travail, ou se la garder uniquement pour soi. Et du coup, on va retrouver cette jurisprudence classée directement, plusieurs fois si besoin, là où on veut. Et évidemment, avec les petits mots-clés, on tague le sujet. Donc, si on a oublié, on met dans la barre de recherche le mot-clé qui nous intéresse et on a à nouveau tous les outils
pratiques. Et est-ce que tu l'utilises aussi pour le suivi des contentieux, des procédures, etc.?
Alors oui, à travers les tableaux de bord. Aussi, en tant que CRM, en tant que suivi de relations clients, la partie administrative, signature de la convention d'honoraires, facturation. Parce que dans la partie tableau de bord, on peut, avec un système de couleurs, annoter le stade dans lequel on se trouve, mettre en place des dates d'échéance qui permettent...
Un peu comme sur Trello, du coup.
Complètement, c'est tout à fait Trello. Donc là-dessus, moi aussi, ça me permet, et puis évidemment avec aussi des systèmes de notification et d'alerte qui permet de se souvenir
des
dans
délais,
son
délai, des délais, voilà. Ok. Et quel est le retour de tes clients? Tu l'as mise en place quand, cette plateforme?
Pendant le dernier confinement, au mois de mars-avril. Alors, en fait, ça dépend de la relation que j'ai avec mes clients. Il y en a qui sont un peu réfractaires sur le numérique. Encore un outil, c'est compliqué. Donc c'est vrai que ce sont ceux qui vont moins s'impliquer sur la plateforme. Par contre, ceux qui sont moins réfractaires disent que ça libère les échanges et ça facilite grandement la vie.
Oui, et puis tu peux retrouver quand même beaucoup plus facilement, que ce soit pour toi ou pour eux, tous les éléments sans te dire « Attends, c'était par mail ?»
C'est ça, j'ai plus besoin de chercher.
La pièce est où ?» Ça peut être assez chronophage. Voilà. Et est-ce que ça a amélioré ta relation avec ses clients?
Oui. Et dans ma vie, ça m'a fait gagner un temps fou. Parce que je suis plus en train de chercher à essayer de faire travailler ma mémoire pour savoir où sont les documents, où le suivi. Je retrouve à un seul endroit, je sais où chercher et je pose plus. Puis si je sais pas où c'est, avec le moteur de recherche, je finis par trouver.
Oui, et puis ça libère l'esprit d'une certaine façon.
Ça me libère
façon.
L'esprit et ça me fait gagner beaucoup de temps parce que les clients ne m'appellent plus pour savoir où c'en est, la oui. mise en état, elle en est où,
ça, c'est
qu'est-ce qu'a dit le juge.
C'est un gain de temps à la fois pour eux et oui. puis pour toi. Puis aussi une tranquillisation d'esprit pour toi, mais c'est pour ça. Eux qui ont envie de voilà de voir comment les choses avancent. Une des choses qui est reprochée souvent aux avocats, c'est de pas accompagner suffisamment leurs clients, de pas être assez présent, de pas être assez réactif, de pas informer suffisamment. En gros, t'es présent au début, t'es présent à la fin. Bon, entre-temps, t'as des échanges et tout, mais voilà, ce lien qui peut être un peu discontinu dans le suivi d'un dossier. Et là, ça répond finalement à ces exigences-là, tout en n'exigeant pas un temps supplémentaire démesuré. Au contraire, pour ça. L'avocat, c'est un gain de temps, finalement.
Donc, c'est ça. Alors, après, faut être clair, tous mes travaux, tout ce que je fais, le détail n'est pas accessible à mon client, bien sûr.
Tu choisis ce que tu partages. Et combien ça te coûte, cette plateforme? C'est cher?
Non, 100 euros par mois.
C'est tout à fait abordable.
Ah oui.
Et donc, c'est effectivement en fonction du nombre de personnes à qui c'est tu peux ça. Donner un accès. Et quels sont tes projets pour l'avenir?
On peut continuer à me développer.
Tu voudrais recruter, par exemple?
Oui. Ah oui. Justement, parce que je sens que j'arrive à une limite où si je veux garder cette même réactivité, j'ai besoin de soutien. Alors après, j'ai un problème dans ma matière, c'est que trouver de la compétence et surtout des gens aussi motivés, prêts à apprendre dans ma région, c'est assez difficile. Parce que ceux qui ont cette ambition d'être dans ma matière partent dans le Nord.
À Paris.
Donc, ont... Voilà.
Est-ce que tu te verrais recruter un collaborateur ou une collaboratrice à distance?
Oui. Clairement, après l'avoir testé, ça se passe super bien. Donc, pour moi, c'est vrai qu'il faut se voir de temps en temps.
Hein. Oui, attention. Bien sûr.
D'ailleurs, je l'ai fait avec tous. On s'est tous vus. De temps en temps, faut...
Ouais, c'est important aussi.
Voilà.
Pour le lien aussi.
Faut garder le lien. Par contre, je ne verrais aucun problème de me recruter à distance.
Bah, avis aux auditeurs, collaborateurs, collaboratrices qui auraient été séduits par toi, Tiffany, et qui voudraient postuler. Et de toute façon, je mettrai aussi ton contact LinkedIn dans les notes de l'épisode. Et quel conseil tu donnerais aux professionnels du droit de manière générale qui nous écoutent et qui aimeraient innover?
Osez le faire, puis n'écoutez pas trop les autres. Sur ce point de vue-là. Après, vous verrez vous-même si c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais si vous n'avez pas tenté,
essayez,
vous le saurez jamais.
Et sur quelle note tu voudrais terminer cette interview?
La profession d'avocat est plein d'avenir, il y a plein de nouveautés, il y a plein de choses à innover. On est au début d'une nouvelle ère de la profession d'avocat. Notre métier est en pleine évolution. Alors c'est vrai que ne cherchez pas à innover dans les domaines qui existent déjà, cherchez plutôt à vous rapprocher des nouvelles formes de prestations et de relations clients.
Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire.
Il y a beaucoup de choses à faire. Et ne croyez pas, on a toujours du temps. Ne croyez pas que ça va vous manger du temps. Investissez. Ouais. Croyez en votre projet. Investissez. Et ne pensez pas que vous êtes en train de perdre le temps à moyen terme.
Oui, il y aura
ça va
un
être
gain.
Un gain. Et aussi, regardez ailleurs. Je veux dire ailleurs, pas seulement des avocats à l'international, ce qui est aussi très intéressant, mais aussi ailleurs.
Hors avocat.
Hors avocat, oui. Ne pas avoir peur de se dire pourquoi ce que font d'autres dans d'autres métiers ne pourrait pas s'adapter aussi. Et ça peut être des idées simples. Enfin, moi, j'ai toujours eu l'impression que mes idées étaient toutes simples parce que je pensais qu'elles étaient pas innovantes à la base. Et finalement, elles étaient peu coûteuses. Alors, c'est vrai, c'est de l'huile de coude, mais ça veut pas forcément dire qu'une innovation doit coûter cher en investissement.
C'est sûr. Oui, puis c'est pas forcément effectivement technologique.
Oui.
Enfin, ce que t'as fait toi pour les pitchs de tes plaidoiries, à part l'investissement en temps et
c'est
puis
ça.
Voilà, ça nécessite aucun autre investissement.
Et ça, c'est pour dire que l'innovation est à la portée de tous.
Ouais.
Pas juste des grands cabinets.
Oui.
Au contraire, les grands cabinets,
ils ont beaucoup plus de process et
c'est
ils ont moins de souplesse,
de
ouais,
exactement.
D'agilité dans la mise en œuvre de ces projets. Donc c'est clair. Bah merci beaucoup Tiffany, on finit sur de belles paroles. Merci pour cette interview, j'étais très heureuse d'échanger avec toi, c'était super intéressant.
Merci
et puis à très bientôt.
À très bientôt.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode, me dire si ça vous a aidé, si vous trouvez que c'est intéressant, si le format vous plaît. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note, de préférence 5 étoiles sur iTunes, ça m'aidera beaucoup, et à parler du podcast autour de vous. Si vous avez des questions, ou si vous voulez donner votre avis, ou si vous avez envie de partager votre point de vue sur tous ces sujets d'innovation, n'hésitez pas, vous pouvez le faire sur les pages du Vent sous la Robe sur les réseaux, donc il y a une page sur Instagram, une page sur Twitter, une page sur LinkedIn, une page sur Facebook, et sinon sur le site internet, sur la page dédiée à chaque épisode, vous avez la possibilité de laisser des commentaires. C'est vraiment fait pour ça, ça peut être très intéressant de débattre sur ces sujets, donc n'hésitez pas. Et sinon, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. À bientôt !